Elle était facile, celle-là.
Ouais, bonjour. Elle était bien, je l'ai bien aimée.
Bonjour Antoine
bonjour
Grenier.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous, les catégories de jeunes à l'honneur ce matin avec la CAN U17 qui démarre au Maroc.
Le match d'ouverture Maroc-Ouganda au stade El Béchir de Mohamedia. Coup d'envoi 22h temps universel pour des Marocains qui rêvent de succéder à domicile au Sénégal, titré en 2023. À leur dépens. Attention toutefois à des Ougandais qui ont dominé leur qualification dans la zone centre-est.
Autre jeu, autre canne, Antoine. La Coupe d'Afrique U20 démarrera dans un mois en Égypte.
Le pays choisi après le désistement in extremis de la Côte d'Ivoire en début de semaine. Un changement d'organisateur qui bouscule forcément les plans des équipes engagées. La RDC, par exemple, qui avait programmé un stage d'acclimatation au Sénégal. Stage qui n'aura pas eu l'effet escompté, regrette le sélectionneur des jeunes léopards, Guy Boukassa.
L'une des raisons pour lesquelles nous étions allés au Sénégal, c'est non seulement parce que c'est bien la nation tenante du titre de la catégorie, c'était aussi surtout pour se rapprocher du contexte de l'ancienne localisation. Le Sénégal, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, nous aurait donc permis de, surtout d'emmener les jeunes qui évoluent en Europe, de s'accoutumer au contexte africain en termes de terrain, en termes d'environnement, de météo et autres. Mais là, avec ce changement de pays hôte, on va devoir réorienter notre préparation vers une nation similaire en termes de climat et de météo à l'Égypte, qui va nous accueillir.
Guy Boukassa avec Olga Massangou, la RDC, qui doit disputer face au Congo le premier match de la CAN 2025 pour le compte du groupe A.
On suivra ça bien sûr sur RFI. Le foot en Europe en attendant et la Ligue 1 qui change de dauphin.
Peut-être un tournant de la saison. 27e journée, l'AS Monaco dépasse l'Olympique de Marseille. Les Monégasques deuxième derrière le Paris Saint-Germain après leur victoire 2-1 contre Nice. Un derby azuréen renversé par le club du Rocher grâce à Mika Biret et Brelem Bolo qui ont inscrit les deux buts monégasque. Pourtant, les Aiglons avaient ouvert le score grâce à l'Ivoirien Jérémy Boga. L'ASM devance désormais l'OM à 7 jours de la fin du championnat. Pas 7 journées, pardon, de la fin du championnat. Pour le capitaine de l'AS Monaco, Denis Zakaria, la logique a été respectée.
C'est aussi une victoire bien méritée. Je pense que voilà, on a bien joué ce match. On a montré qu'on voulait prendre les 3 points et aujourd'hui, je pense que c'est mérité qu'on gagne ce match. Alors, on s'est clairement dit qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Malheureusement, on a pris ce goal contre le cours du jeu, mais voilà, on savait qu'on était capable de tourner ce match et on a su le faire en deuxième mi-temps. On prend chaque match après, on prend match après match et puis on essaye d'être le plus performant possible et de prendre le plus de points possible.
Denis Zakaria chez nos confrères de DAZN au classement. Monaco passe donc devant l'OM battu par Reims 3-1.
Et on termine avec du cyclisme, Antoine. Binyam Girmay en lice pour la victoire sur Grand Vevelgem.
L'Érythréen s'aligne sur une classique qui devrait couronner un sprinter. Maillot vert du dernier Tour de France, il fera donc logiquement partie des favoris, d'autant que les deux ogres, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, sont absents.
Sur Grand Vevelgem, évidemment, cette course. Merci Antoine Grenier. On vous retrouve tout à l'heure sur RFI.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actu international. Et ce bilan en Birmanie, au moins 1644 morts, dernier bilan du séisme qui a frappé le pays avant-hier. Plus de 3400 blessés, dit aussi la junte militaire au pouvoir, alors que les secours continuent de rechercher des survivants dans les décombres. Les réseaux de communication sont pratiquement hors service dans la région de Mandalay. Les secours internationaux commencent tout de même à arriver. La Chine dépêche des centaines de sauveteurs. La Corée du Sud, le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis promettent aussi d'envoyer de l'aide. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui affluent à Istanbul, l'opposition du CHP revendique même 2 200 000 manifestants sur la rive asiatique de la métropole. Foule rassemblée contre l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, arrêté il y a 2 semaines. Il est considéré comme le principal rival politique du président Erdogan. Le président syrien par intérim, qui nomme son gouvernement, 23 ministres, présentés comme une équipe inclusive, mais où dominent tout de même ses principaux alliés. Affaires étrangères, défense ou encore intérieur restent aux mains des proches d'Ahmad al-Sharrey. De nouvelles frappes de drones russes ces dernières heures, elles ont touché cette fois la ville de Kharkiv. 6 frappes au total dans cette localité du nord-est. Elles font au moins 2 morts et touchent notamment un hôpital militaire ukrainien. Kiev dénonce un nouveau crime de guerre. Et puis, les flammes qui reprennent en Corée du Sud alors que les pompiers croyaient en être venus à bout. Des hélicoptères ont été envoyés dans le sud-est pour lutter contre un foyer ravivé. Ces dernières heures, les pluies du milieu de semaine ont permis tout de même d'aider à éteindre le principal foyer de cette catastrophe. Elle a fait déjà 29 morts et 40 blessés. Il est pour les Gabonais, une icône de la lutte contre les colons. Notre reportage du jour nous emmène à présent sur les traces du guerrier Wongo, célèbre et célébré pour avoir mené la révolte du peuple Awanji à la fin des années 20 dans la région de Lastourville. Et sa figure, de nos jours, est honorée par les autorités de la transition gabonaise. Dans un contexte électoral, rappelons-le, la campagne s'est ouverte hier en amont de la présidentielle du 12 avril. Envoyé spécial à Lastourville, François Mazet.
Actuellement emballé dans l'attente de sa réhabilitation, voilà 20 ans que la statue du guerrier Wongo, armée de son fusil, trône sur le rond-point de la mairie de Lastourville. Il y a près d'un siècle, c'est sur les collines, à une trentaine de kilomètres, que ce notable fédérait les Awanji contre l'administration coloniale, qui exigeait, en plus des taxes, des livraisons obligatoires au marché de la ville. Enseignant originaire de la région, comme la présidente du Sénat, Paulette Misambo, dont il est le collaborateur, Jean-Paul Thierry a travaillé sur l'histoire de Wongo.
Il a été taxé d'indiscipliné, et c'est comme ça que l'administration coloniale avait ordonné son arrestation. Et c'est comme ça que lui s'est organisé précipitamment avec les gens qui étaient autour de lui. Il a construit une armée, résisté contre l'administration coloniale. Il a été inventif. Il était presque quelqu'un d'invisible, en fait.
Pendant un an et demi, les rebelles tiennent la dragée haute aux troupes coloniales. Ils creusent des tranchées, emploient des méthodes de guérilla, utilisent les grottes comme cache. Ulrich Schulz-Bavekumbu, originaire du même village, nous mène à celle de Ngongo Gourouma, dans une zone inexpugnable.
C'est d'abord un lieu très caché. C'était un bunker naturel qui servait d'abri à la famille et la descendance. Et lors de la guerre de Wongo, les familles se sont réfugiées dans ces grottes-là parce qu'on trouvait l'alimentation pour se nourrir.
La répression est brutale. Wongo finit par se rendre en août 1929. Il meurt lors de sa déportation vers Bangui. En mai 2024, le général Oligui Nguema vient à Lastourville lui rendre hommage et promettre la rénovation de la statue. Un motif de fierté pour Jean-Paul Thierry.
Parce qu'il symbolise toute une région, tout un pays, et que nous sommes fiers d'avoir pu immortaliser Wongo de par cette stèle. Il y a eu effectivement des ouvrages là-dessus, et que l'histoire de Wongo a été comptée pour les plus jeunes. Ce qu'on souhaite à travers, par exemple, cette statue, c'est pour perpétuer cette figure-là, cette figure emblématique.
Mais la mise en avant du guerrier Wongo n'est pas neutre. Le sociologue Joseph Tonda y voit un moyen pour le chef de la transition de revendiquer une filiation.
Cet épisode est très intéressant parce qu'il renvoie au schéma de pensée selon lequel nous ne sommes pas des nuls. On a lutté pour sauvegarder notre identité, défendre notre culture. La deuxième dimension, c'est l'identification au héros. Donc c'est lui.
Plusieurs organisations gabonaises appellent à une réappropriation de l'histoire et à la mise en valeur de figures de résistance comme Wongo ou Eman Tolé en Pays Fan. François Mazet, de retour de Lastourville, RFI.
Un reportage sur la figure du guerrier Wongo à retrouver, à partager, bien sûr, sur Internet. Allez, on se rapproche à pas feutrer de la bibliothèque de la Radio du Monde. On y retrouve Tirthankar Chanda pour sa chronique littéraire. Il nous présente ce matin le travail de Gaëlle Bellem, première réunionnaise à être sélectionnée pour le prestigieux Booker Prize anglais, avec son premier roman, Le monstre est là derrière la porte. On saura le 8 avril si son roman est finalement retenu dans la shortlist. Mais en attendant, l'écrivaine publie déjà son troisième livre, un recueil de nouvelles intitulé Sud Sauvage. 13 contes entre fantastiques et étranges qui mettent en scène une île natale inquiétante. Gaëlle Bellem nous en parle donc avec Tirthankar.
Préfère l'impair, disait Verlaine dans son célèbre poème Art poétique. Vous avez écouté la recommandation du grand poète, puisqu'on compte 13 nouvelles dans votre recueil qui sort ce 3 avril.
Bien entendu, il se trouve, cher Tirthankar, que je suis athée. Mais même en étant athée, nous savons à quel point ce chiffre 13 est très important pour ceux qui sont croyants ou superstitieux. D'où le fait que j'ai choisi d'incorporer 13 nouvelles dans ce recueil qui parle de croyances, qui parle de mystères, qui parle de phénomènes surnaturels.
Vous avez aussi parlé de nouvelles horrifiques.
Oui, parce que certaines histoires tendent vers l'horrifique, mais le terme fantastique est beaucoup plus adapté. Ce sont des histoires fantastiques, ce sont des histoires troublantes, ce sont des histoires intrigantes, mais elles ne sont pas toujours naturelles. Jusqu'à un moment donné, on est amené à se dire, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que nos yeux ne voient pas? Mais c'était juste un recueil qui vous amène tout simplement à une interrogation, tout en respectant les croyances des lecteurs. C'est comme ça que je l'ai voulu, dis-moi.
Comment ne pas constater que derrière le fantastique, il y a chez vous une volonté de raconter votre Réunion natale?
Il y a, depuis mon premier roman, un souci de peindre la Réunion telle qu'elle est, de décrire les petites gens, parce que moi-même, je viens d'un milieu populaire. Mes ancêtres étaient pour certains des engagés, pour d'autres des esclaves. Dans ce recueil de nouvelles qui parle d'esclaves qui ont disparu, je veux revenir sur le passé colonial, le passé esclavagiste de la Réunion. Quand je parle d'un homme qui découvre cette tête, un homme qui est d'origine plutôt modeste et aux prises avec ses angoisses, avec une pléthore de superstitions, je veux montrer aussi ce qu'est la vie de ces petits gens à la Réunion. Il y a chez moi une appétence pour le social, ce souci du peuple dans tous mes textes, que ce soit des romans, que ce soit un recueil de nouvelles, et ça, ça ne changera pas.
Comment êtes-vous venu à l'écriture, Gaëlle Bellem?
Je viens d'un milieu très pauvre où il n'y a pas d'appétence particulière pour la littérature. J'ai l'habitude de dire que je viens d'une ville où il y a beaucoup de vent, une ville de l'est de la Réunion qui s'appelle Saint-Benoît. Les rares livres qu'il y avait chez moi servaient de cale-porte pour que les portes ne claquent pas à cause du vent. Et un jour, je me suis penchée vers un de ces livres qui était là et qui servait de cale-porte. Et j'ai décidé de l'ouvrir et de le lire. Il s'agissait de deux livres. Il y avait Flaubert, il y avait Balzac, Père Goriot, il y avait Madame Bovary. C'est comme ça que j'ai découvert la littérature avec ces auteurs du 19e siècle.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'un livre pour vous, Gaëlle Bellem?
Un livre est bien plus qu'une juxtaposition de feuilles griffonnées. Un livre est une déclaration d'amour à ses lecteurs, quel qu'il soit. Un livre est une mise à nu absolue de l'auteur qui a écrit ce livre et qui donc s'expose dans toute sa nudité, c'est-à-dire dans toute sa sincérité, dans toute son authenticité, dans toute sa fragilité à ses lecteurs. Un livre est un pont. C'est une invitation également au voyage.
Une invitation que nous sommes nombreux à saisir. Gaëlle Bellem au micro de Tirtan Karchanda pour nos chemins d'écriture. Le roman Sud Sauvage, je vous le rappelle, à lire aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. À 6h54 à Paris, 100% création à présent, comme tous les dimanches sur RFI. Et à la veille des journées européennes des métiers d'art qui débuteront demain et jusqu'au 6 avril dans les pays européens, rencontre ce matin avec un artisan d'art justement, Sofiane Amsadek, qui propose des installations colorées et poétiques à un artisan verrier que Maria Afonso a croisé pour nous au Muse Vert, musée justement dédié au verre et à son histoire à Sars Poterie dans le nord de la France.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
J'ai toujours été touche à tout et quand j'ai vu le premier cueillage, donc première prise de matière dans le four, pour le verre, c'était, mais bah, je devais être là à ce moment-là.
Sofiane Amsadek, artisan verrier et souffleur de verre.
En tant qu'artiste, j'aime beaucoup faire par moi-même. Là, pour le verre, c'est très particulier, il faut vraiment de la technique. Ma spécialité, c'est le soufflage à la canne.
Sofiane Amsadek, artiste verrier, est née à Paris et a grandi en banlieue parisienne. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'oriente vers des études de cinéma et découvre l'art vidéo. Ce coup de cœur l'amène à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, où il s'initie au travail du verre. Passionné par la gestuelle et la chaleur de cet élément, Sofiane Amsadek développe son propre style artistique. Actuellement installé à Nantes, il travaille dans un atelier tout en menant des projets personnels et des résidences artistiques comme celle du Muse Vert, dans le nord de la France, dédiée à l'histoire du verre. La technique de soufflage à la canne est au cœur de son travail. La chaleur du four, la fragilité du verre envoûtent et fascinent Sofiane Amsadek.
Il faut être concentré. Quand tu prends la canne, même si elle dure 5 heures la pièce, ton esprit est que là pendant 5 heures. Les petites pensées parasites et tout ça, on peut louper la pièce. C'est assez intense niveau concentration. Il y a la matière qu'on a au bout de la canne, mais aussi les gens avec qui on travaille. On peut avoir un assistant ou une assistante, plusieurs, mais celui qui est sur le banc reste le chef d'orchestre. Il va donner les indications, quand il faut souffler, comment il faut chauffer. Donc on gère un peu tout en même temps. À force de travailler avec la même personne, il y a aussi une complicité qui se met en place et sans parler, on sait ce qu'on doit faire, avec aussi l'expérience de la matière.
Le verre est pour cet artiste une matière aussi fantastique que fascinante, qui l'invite à l'échange.
C'est une discussion, hein. Tout le monde le voit de manière fragile, mais il peut être aussi très dur. On peut avoir de la légèreté, il peut être fragile, mais avoir une pérennité dans le temps aussi. En un instant, la pièce peut disparaître. C'est un mélange de tout qui m'intrigue un peu. Et ouais, je crois que cette matière est quand même assez magique. Techniquement, j'ai autant envie de réussir à faire un gobelet que faire une pièce d'art ou une installation. C'est ça qui est intéressant avec cette matière, c'est que c'est un panel hyper large de possibilités.
Retrouvez l'univers de Sofiane M. Sadek sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, 100% création, tous les dimanches sur la radio du monde. Allez, avant de retrouver RFI Matin, une petite pause en musique. On écoute Mathieu Bogertz qui nous présente son titre Dans une case.
Dans une case tu m'as mis, dans une case tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris dans une catégorie. Et là, je ne peux plus bouger. Et là, je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé dans la case où tu m'as gazé. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Par où la sortie?
Dans une case tu m'as mis.
Moi je dis c'est une erreur. J'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y'a pas la longueur, y'a pas la largeur. Fallait pas appuyer en hauteur. Quelle idée t'as foutu de moi? C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure un tout petit poids? Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est pas où la sortie? Dans une case tu m'as mis. Y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête.
Mathieu Bogertz, Dans une case, extrait de la sélection du mois d'RFI Musique. Merci à Hugo Vallière qui a réalisé cette session d'information. Merci à Édouard Dupénoat à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous pour votre fidélité à la Radio du Monde. Restez avec nous dans 30 secondes. RFI Matin débute avec Julien Coquel-Rouet.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.